Depuis les studios de Radio Galaxy, nous retrouvons notre cher Christian Cayol pour nous présenter une nouvelle région de notre belle France. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Où donc nous amènes-tu aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, nous partons au bout du Doubs et le Sundgau. Alors,
c'est la France ça ? C'est en France ?
Justement, je vais le préciser. Le Sundgau, c'est le sud de l'Alsace.
D'accord.
Voilà, ça s'appelle le Sundgau. Et c'est à la limite de la Suisse et de l'Allemagne. Donc voilà. Précédemment, en septembre, l'émission nous a permis d'évoquer l'Aisne et la Marne, avec les batailles, en particulier le chemin des Dames. Et puis cette année, année du centenaire de l'armistice 14-18, j'ai patrouillé aussi en Lorraine, plus précisément à Verdun, et je vous raconterai ça une autre fois. Mais aujourd'hui, nous allons plus à l'est et découvrir justement les frontières de 1914 avec l'Allemagne donc et la Suisse, comme nous venons de l'évoquer.
Oui, on retrouve des champs de bataille aussi encore. J'ai vu dans cette vidéo, cette fameuse vidéo.
Voilà, c'était l'objectif de ma visite là-bas, que je veux faire un peu sur trois émissions, évoquer cette grande guerre.
Ouais, voilà. Mais il n'y a pas que ça. On retrouve toujours des chapelles troglodytes, des cascades, des grottes, des cirques, des ruines châteaux. Enfin, la totale sur cette vidéo donc sur la conquête de l'Est.
Oui, c'est vrai. C'est très riche. Hein.
Mais voilà. Tu vas nous en parler dans quelques instants.
Bien sûr. Ah. Alors, on va commencer par le Sundgau, terre de mémoire de la Haute-Alsace, mémoire d'un conflit mondial qui plongea les populations dans l'horreur et dans le sacrifice. Difficile d'imaginer ces scènes infernales du carnage d'une génération. Cette région du sud de l'Alsace, qu'on appelle donc le Sundgau, était en 1914, faut s'en rappeler, sous régime allemand depuis 40 ans. Et le désir de revenir français, c'était évident pour ces Alsaciens. Mais il faudra encore attendre 4 longues années, les années de guerre. Il n'y a sans doute aucune région de France où l'on dresse aussi fièrement et où on voit flotter le drapeau bleu-blanc-rouge. Le simple fait d'émettre un doute sur les sentiments patriotiques des Alsaciens est offensant pour eux. Pourtant, en 1914, voilà déjà 40 ans qu'ils étaient allemands, étaient-ils français ou allemands ? Cette région avait subi tellement de bouleversements qu'on finissait par y perdre son latin. Lors de la mobilisation, les jeunes Alsaciens contraints durent se battre sous l'uniforme allemand, pendant que côté français, les villageois étaient déplacés vers l'arrière. Une charrette tirée par le cheval dans laquelle s'empilaient matelas, chaises, ustensiles de cuisine, sans savoir où aller, ni chez qui et pour combien de temps. Imaginez les drames. Deux parents, un dans l'armée française et l'autre en face sous l'uniforme allemand. Dès le commencement des affrontements, une clôture avec un grillage électrifié fut construit en quelques mois le long de la frontière côté allemand. Des poteaux de bois, une dizaine de fils de fer barbelés sur une hauteur de 3 mètres, souvent renforcé par une deuxième ligne et parfois même une troisième, tout ça a été mis sous tension. À partir de 1915, le front y reste stationnaire, mais la guerre se prolonge et le ravitaillement devient problématique. Tout est rationné selon un système de cartes, la viande, le beurre manquent, le pain devient de plus en plus noir et immangeable. Les tissus, les chaussures sont introuvables. Dans les villages, c'est la dysenterie et la typhoïde qui frappe la population. Je vais vous parler de l'histoire du kilomètre zéro. De 1871 à 1914, Fetterhaus, c'est un petit village, le village des trois frontières, France, Allemagne, Suisse. Mais dès 1914, le front se fixe et il s'étire vers l'ouest. La borne 111 devient le kilomètre zéro d'un front de 750 km remontant jusqu'à la mer du Nord. Durant toute la durée de la guerre, les Suisses sauvegardaient leur neutralité en surveillant à gauche les Français et à droite les Allemands. Sur cette ligne de front du Sundgau, l'armée allemande va bâtir une série de blockhaus, abris pour les hommes et les munitions, postes de mitrailleuses ou de canons. Les entrées sont toujours orientées vers le nord ou vers l'est. Les tranchées forment des méandres d'un mètre 50 de profondeur et 85 cm de largeur. Les parois sont grillagées et recouvertes de béton. Côté français, c'est complètement différent. Pour cette raison, tu vas comprendre qu'on ne trouve pratiquement aucun vestige. Il est prévu de reprendre les territoires rapidement et d'avancer. Donc, on ne va pas bâtir en dur. Les abris seront en bois, en pierre et en tôle. Tout au long de la guerre, les positions sont restées sensiblement fixes. Loin des bourbiers de Verdun, les combats faisant cependant un mort par jour ici à Peterhouse. Alors donc, côté allemand, on a des tranchées et des abris en béton. Quand on les retrouve sur le terrain, on les retrouve sensiblement identiques. Ils ont un peu éboulé, mais on les retrouve. Côté français, on voit pratiquement rien.
Et sur ta vidéo, pourtant, on voit des tranchées avec de faites en bois, c'est ça ?
Souvent qui ont été reconstituées.
Ok.
Voilà. Sinon, côté français, tu comprends que les tranchées faites en bois, 100 ans plus tard...
Ça n'existe plus.
Ça n'existe plus. Côté français, tout ce que l'on retrouve, c'est reconstitué.
D'accord. Okay.
Voilà. Alors, un petit miracle sur ce territoire. Un soir de Noël 1916, un repas fut pris en commun par les trois belligérants, ou plutôt les deux belligérants, plus les Suisses qui tenaient la chandelle, en quelque sorte. Un peu d'humanité dans cet enfer.
Eh bien, ouais.
Voilà. Le lendemain, chacun chez soi. Ouais. Un peu plus au nord, un endroit qui s'appelle Hartmann-Willerkopf. Une montagne baptisée par les poilus le Vieil Armand et surtout la Mangeuse de Dôme. C'était une position stratégique, un enjeu de nombreuses batailles entre décembre 1914 et janvier 1916. Au sommet, les premières lignes n'étaient séparées que par 22 mètres. Le sommet changea 8 fois de main. Des bombardements inimaginables. Pendant la seule journée du 21 décembre 1915, 250 000 obus furent retirés par l'armée française. Les pertes des deux camps ont été estimées à 25 000 morts dus à l'acharnement des généraux. Les 6 000 aménagements, casemates, tranchées, abris et 90 km de galeries sont les plus importants des Vosges et encore bien visibles. On en voit sur ma vidéo. Je marche, je fais des images en progressant à l'intérieur des tranchées.
Oui, exact, ouais. On voit ça. Ouais. D'ailleurs, tu pourrais rappeler ta vidéo ?
Ma vidéo, à la conquête de l'Est, le site randovttvideo.free.fr et puis Radio Galaxie en lien.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, la leçon à tirer de tout ça, la fin de la Première Guerre mondiale fut un soulagement. Pourtant, malgré toutes les souffrances endurées, cela n'a pas duré très longtemps, ça n'a pas servi de leçon. Puisqu'en 1939, toutes les populations situées entre la ligne Maginot et la frontière furent évacuées vers le sud. La défaite de 1940 et l'annexion de tout ce secteur plongea les populations dans le désarroi. L'Allemagne fit régner un régime de terreur, emprisonnement, déportation, exécution, mobilisation des hommes entre 17 et 38 ans. Et de nouveau, ces hommes-là engagés de force sous l'uniforme allemand. Les réfractaires ont bien tenté de passer en Suisse, mais les représailles furent très sévères. Sur le canton d'Altriche, non loin de là, 2200 personnes ont été arrêtées et déportées entre février et mars 1943. Les personnes ont 30 minutes pour faire leur baluchon. Une triste période, de plus.
Ouais.
Voilà. Les obus de la pollution, je vais vous parler maintenant. En Verdun, ce fut 60 millions d'obus tirés. Rien que ça. 60 millions d'obus tirés, dont 2 millions tirés la seule journée par les Allemands, la seule journée du 21 février 1916. Pour se rendre compte, 1400 impacts par minute, 6 obus au mètre carré, ça fait quelque chose. Entre 500 et 800 tonnes d'obus bourrés de polluants non explosés sont encore découverts chaque année dans ces régions. Et qui continue de distiller un lent poison. En 4 ans, 1 milliard de bombes, soit 15 millions de tonnes de métal qui ont ravagé les 700 km de front. Des études récentes montrent que la pollution au perchlorate suit les zones de combat de la Grande Guerre. Cette pollution des captages d'eau est avérée sur plus de 1000 communes et ça touche 500 000 personnes environ.
La guerre continue, quoi.
On va encore en reparler. Vous allez voir. Retour au bout du Doubs, tout proche. Des grottes et des abris. À la fin de la Première Guerre mondiale, la France s'est retrouvée avec un stock monstrueux d'obus qu'elle n'avait pas utilisé. Comment s'en débarrasser ? Près de Verdun, l'armée a brûlé à l'air libre, en 1920, près de 200 000 obus désamorcés. Un siècle plus tard, la pollution de la terre et l'eau d'infiltration en arsenic est encore 1000 fois supérieure à la normale. 1000 fois supérieure. Pour éliminer le stock d'obus restant de la Première Guerre mondiale, l'armée jette en 1923 dans le gouffre de Jardel, non loin de Pontarlier. Pendant une semaine, des wagons remplis de munitions à canon. Des centaines d'obus, de 3 à 110 kilos, de calibres variés, 75 à 240, qui vont s'entasser dans le puits d'entrée de ce gouffre, sur une quinzaine de mètres de hauteur. Comment ils ont amené ces obus au bord du gouffre ? Des rails de chemin de fer arrivés jusqu'au bord du gouffre et les wagons vidés directement. Ce site n'a été redécouvert qu'en 1972. L'administration se gardant bien de communiquer. Comme de nombreuses autres cavités, ce gouffre avait servi pendant longtemps de charnier pour animaux morts. Il faudra attendre la loi de santé publique de Martel qui, en 1902, interdit le jet de cadavres et d'animaux de détritus putrescibles. Cela n'a pas empêché l'administration de polluer encore plus gravement 20 ans plus tard et surtout de se taire. Cette cavité est en lien direct, le gouffre Chardel, avec la rivière Loup, non loin. Une bien triste conséquence de l'imbécilité humaine. Parce que avant de boire un verre là-bas, il faut y regarder à deux fois. Un verre d'eau.
Oui, de nos jours encore, automatiquement.
Ah ben bien sûr.
Bien sûr.
Bien sûr.
Et pour encore très très longtemps.
Ouf, à savoir. Le gouffre est interdit d'accès, bien sûr. Il est clôturé avec un panneau. On le voit sur ma vidéo, j'ai fait passer le drone au-dessus parce que c'était la seule façon de l'approcher. On voit bien le contexte. Gouffre Chardel, non loin de Pontarlier. Une autre cavité connue pour des raisons, heureusement, bien différentes. La grotte consacrée de la chapelle de Raymoneau. C'est la seule, en France, grotte consacrée, dans laquelle s'écoule une source miraculeuse à l'origine de guérisons inexpliquées de la vue. Occupée au néolithique, puis par des druides gaulois, des ermites du 8e au 18e siècle, certains issus des Templiers et qui en ont assuré la garde. Dès l'entrée, de nombreux ex-voto, une statue de la Vierge en bois polychrome et la statue de la Pitié de Dieu. Dieu lui-même présente son fils mort. Dieu n'étant que rarement présenté, il me faut revoir mon catéchisme. Parce que la représentation de Dieu même avait été plus ou moins interdite par le clergé. Alors, c'est un lieu de pèlerinage assez fréquenté autour du 15 août. À noter que la rivière, elle a fait l'objet de plusieurs plongées bouteilles pour une désobstruction, car elle présente rapidement une étroiture qui reste mystérieuse, puisqu'elle n'est toujours pas franchie. Un autre abri, l'abri sous roche d'Oberlargue. Alors, on voit sur ma vidéo deux entrées de forme circulaire, entrées donc d'abri. Des fouilles ont montré des silex, des ossements, et une occupation qui remonte à 60 000 ans. La période la plus fréquentée fut celle de l'époque cueilleur-chasseur nomade, entre 10 000 et 5 500 ans avant Jésus-Christ. À l'époque du bronze, ces abris étaient ceinturés d'un rempart défensif construit tout autour. On ne peut pas trop s'approcher, c'est une propriété privée, mais on peut au moins arriver jusqu'à l'entrée, faire des images et se rendre compte de cela. Au bout du Doubs, le Sceau. Je change. Le Doubs serpente dans la vallée, puis s'élargit pour former un lac naturel de 3,5 km de long et 100 mètres de large. L'eau devient plus noire. Et dans le goulet, elle chute de 27 mètres. C'est notre petit Niagara français.
Ouais, c'est impressionnant sur ta vidéo, oui, on le voit, c'est impressionnant.
Surtout qu'il y a du bouillon, oui, cette fois-là. Mmh. Ce qui n'est pas le cas, fin d'été, eh ben, le Doubs est pratiquement à sec et la cascade ne coule plus. Mais là, sur ma vidéo, on voit bien un gros bouillon. Oui, bon, c'est pas la cascade de Gavarnie, ni celle du pont d'Espagne, on reste chauvin. Mais ça vaut le coup quand même, c'était une belle chute.
Oui, oui, elle est très large, elle remue beaucoup. Et non, oui. c'est à voir.
27 mètres de haut, c'est pas mal non plus. C'est aménagé, les points de vue sont sécurisés, c'est cimenté, et il y a des rambardes, donc 300 000 visites par an, c'est pareil.
C'est où, rappelle le lieu ?
Le Sceau du Doubs.
Le Sceau du Doubs, voilà.
Voilà. Retour dans le Sundgau, un château du Sundgau. Le château du Landskron, du XIIIe siècle, au sud. Il est à moins de 500 mètres à la frontière suisse. Du haut de la tour, la vue est impressionnante. C'était une propriété des Habsbourg. Elle passera aux mains du roi de France Louis XIV après la guerre de 30 ans, en 1648. Vauban y fit des travaux importants pour y accueillir une garnison de 300 hommes, quelques prisonniers incarcérés, notamment par lettre de cachet, et des prisonniers politiques. Une belle ruine, entretenue par une association. Ne pas la rater. Ah, maintenant, je vous amène à la maison aux arrosoirs.
J'ai vu ça, impressionnant, une de plus.
Ah là, c'est tout autre domaine. Est-ce que c'est du domaine artistique, de l'art brut? Je ne sais rien. Ce que je peux dire, c'est que c'est déjà de thé. Alors, c'est un jardinier, c'est un fleuriste, c'est un magasin de fleuriste, sa maison. Et tout autour, environné d'arrosoirs, il les collectionne depuis une vingtaine d'années. Il les garde accrochés à la façade. Dans son jardin tout autour, c'est à Rougemont-le-Château. Au dernier recensement, il en dénombre plus de 800, du toit au jardin. Une maison vraiment insolite, comme j'adore. Je vois que toi aussi, ça t'a pas laissé indifférent. Question, comment appelle-t-on les collectionneurs d'arrosoirs? 30 secondes pour répondre.
Thune.
Ouais. Alors, déjà le mot, rien que le mot, et j'espère que je ne vais pas l'écorcher, rosutifiliste. Voilà, ça collectionne les chantepleurs. C'est un nom beaucoup plus joli pour dire l'ancêtre de l'arrosoir. Et autrefois, c'était une sorte de cruche percée de trous. Et puis l'arrosoir tel que nous le connaissons aujourd'hui, il apparaît qu'au XVIIIe siècle, en cuivre, lourd. Et puis au XIXe, arrive le fer, plus léger, moins coûteux. Il sera étamé, deviendra fer blanc, avec une couche d'étain fondu qui va le protéger, ou galvanisé, en le trempant dans du zinc en fusion. Et le zinc donne une robustesse, des propriétés fongicides et antiseptiques. Certains seront émaillés, et des formes plus ou moins variées en fonction de l'emploi. Une ou deux anses, le bec verseur plus ou moins gros, droit, courbé, à pomme, enfin, des tas de variétés de chantepleurs.
Et maintenant, ils sont en plastique.
Oh, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, quel dommage. Autre chose, un théâtre en pleine nature. Ils sont fous, ces Romains. Le deuxième par la taille le plus grand de France. À Mandeur, il fait 142 mètres de diamètre. Il pouvait contenir plus de 20 000 personnes. C'est le seul survivant de cette période de l'âge du fer, moins 800, plus 100. Mais à l'époque, il faisait face à un temple. C'était une construction majeure de l'agglomération. Alors là, encore un autre mot à prononcer. Actuellement, ça s'appelle Mandeur. À l'époque, Epomanduo du Rhum. Je ne le répéterai pas. C'était le patelin de Mandeur à l'époque, entre Jura, Vosges et Alsace. Bien que de conservation remarquable, il ne subsiste que le squelette. La façade et les dispositifs scéniques ont disparu. Je vais vous amener maintenant dans un lieu qui vous apprendra tout sur le Sungo. C'est l'écomusée d'Alsace à Ungersheim. Alors là, vous plongez dans un village d'antan, maison alsacienne restaurée. On retrouve la nostalgie du temps passé, où le temps s'écoulait au rythme du soleil. Les maisons sont toutes à pans de bois antisismiques qui résistaient beaucoup mieux que les briques. Les couleurs sont criardes, ça avait une signification bien précise. Au Moyen-Âge, peu de gens savent lire, et les couleurs représentaient les différentes corporations. Alors vous avez le bleu, qui était réservé au métier du bois, le rouge, c'était pour le fer, le jaune, les boulangers, le crème, les maçons, tailleurs de pierre, couvreurs, le vert, tailleurs, tanneurs, couturiers, et parfois même indiquer la religion, le rouge, les protestants, le bleu, les catholiques. Un musée dans l'écomusée.
De mieux en mieux.
J'aime bien m'attarder sur tout ce qui touche l'art brut naïf, hein, les créations artistiques marginales. Ici, c'est André Blender, né en 1920. Il s'y est mis sur le tard. 1979, après un accident qui l'a privé d'activité, et pendant 20 ans, il a produit une importante collection sans se soucier du candidaton. Au bout de deux ans, c'est rapide, 1991, les visites commencent, nombreuses. Il a le sentiment d'être envahi, il ne fait plus lui-même les visites. Il laisse les gens seuls visiter ses productions. Alors, des personnages, des animaux, en bois peint ou en béton, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, Arc de Triomphe, des maquettes d'églises ou de maisons alsaciennes. Ce qu'on en retient surtout, c'est qu'il veut rendre hommage à sa région. Tout à sa collection, désormais, l'écomusée a dégagé un espace appelé Musée de la Dolère, qui abrite, protège, conserve dorénavant ses nombreuses œuvres à l'intérieur du musée. Ah. Et bien voilà, nous arrivons à terme. Nadine a peint à l'intérieur de l'écomusée d'Alsace, il y a un beau pigeonnier, et Nadine en a fait une aquarelle, voilà, qui termine ma vidéo.
Tout à fait.
Et puis des images ensoleillées d'une chouette rando VTT, au relief très varié et ludique.
Pas mal dans les bois apparemment.
Oui, des bois, mais des parties aussi ensoleillées.
D'accord.
Oui, c'est intéressant. Le mois prochain,
ah,
on revient dans un endroit déjà évoqué, l'Auvergne, mais l'Auvergne autrement. Et en attendant,
bougez.
Mais bougez en France. Et puis, à bientôt.
À bientôt. Et on rappelle que ton émission, Christian, La Bougeotte, donc, passe le premier mardi 9h30, deuxième jeudi 14h30, troisième samedi 17h30 et quatrième dimanche 7h. Merci, Christian.
Merci aussi. À bientôt. Au revoir.